France Culture. Les nuits de France Culture.
Né en 1898, Joseph Kessel est l'un de ceux dont on peut affirmer, sans risquer de se tromper, qu'ils ont le plus intensément vécu le XXe siècle. À travers son travail de grand reporter et le territoire sans limite de sa curiosité, à travers l'immensité d'une œuvre littéraire qu'il commença très jeune, mais bien sûr aussi à travers ses engagements durant les deux guerres mondiales. Qu'est-ce qui avait poussé Joseph Kessel à s'engager, avant ses 18 ans, comme volontaire dans l'armée française en 1916 ? Qu'est-ce qui l'avait poussé vers la résistance dès 1940 et à rejoindre Londres pour s'engager dans les forces aériennes de la France libre ? C'était ce qu'il expliquait en 1973, dans le quatrième de ses entretiens avec Claudine Chonnaz. Une émission dans laquelle Kessel disait également sur quoi était fondé son attachement à Israël. Quatrième des cinq entretiens avec Joseph Kessel, diffusé le 22 mars 1973 sur France Culture.
On peut penser que vous avez fait la guerre parce que vous aviez 17 ans et que vous étiez fou d'agir et de risquer. Mais ensuite, vous avez fait la résistance. Vous étiez beaucoup plus âgé à ce moment-là, entre 40 et 45, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, vous étiez beaucoup plus conscient. Ce n'était plus le simple goût du risque et la jeunesse qui vous emportait.
Non, mais même en 1916, quand je me suis engagé, je considérais que... Nous étions les représentants du bien et que l'Allemagne était le représentant du mal. Et dans la guerre d'Espagne, je n'ai pas combattu. Mais en Irlande, quand j'étais en premier reportage en 1920, j'ai fait des choses qu'un correspondant de guerre ne doit pas faire. Enfin, j'ai pris parti, j'étais dans des embuscades parce que j'étais pour l'opprimé. Alors, comment voulez-vous que pendant la guerre d'Espagne, j'étais... Enfin, ça, c'était des articles, en fait, simplement. Mais enfin, j'ai été condamné à mort par contumace. Par Queipo de Llano, vous vous rappelez.
Par le franquisme.
À Séville, il condamnait à mort, les gens. Mais comment voulez-vous, alors, que devant la plus effroyable, vraiment, entreprise d'esclavage et de malheur et de massacre, sans compter, je veux dire, qu'il y avait là aussi, mais ça c'est secondaire, ce goût de, alors dans toutes ces épreuves, les hommes se dépassent. Dans une tranchée, il y avait une camaraderie, une solidarité comme on ne la retrouvait pas ailleurs. Et vous, dans la résistance, vous savez bien que c'était vraiment l'idéal de l'amitié, de la camaraderie, tout ça. Alors tout ça va ensemble.
Je voudrais signaler ici que Joseph Kessel est avec son neveu Maurice Druon, l'auteur de l'admirable Chant des partisans. Bon, et depuis la résistance, depuis la paix, je n'ai pas l'impression toutefois qu'on puisse à aucun titre parler de vous comme d'un écrivain engagé. J'aimerais que vous me parliez tout de même un petit peu de ce que vous pensez sur le plan social et politique, si ce n'est pas trop indiscret.
Non, ce n'est pas indiscret, mais ça m'est difficile d'y répondre parce que je n'ai jamais pu appartenir à un parti politique parce que je trouve qu'il y a dans chacun, ou presque dans chacun, il y a du bon et encore plus de mauvais, et que à ce point de vue-là, je suis un anarchiste, je vais là où me pousse mon instinct ou la révolte que peut m'inspirer l'injustice, que ce soit contre les régimes de gauche ou de droite, et je fais le franc-tireur, voilà.
Vous êtes, je crois, assez engagé en faveur d'Israël à la suite de la guerre des six jours, où justement c'est tellement contesté.
Ah non, ça c'est pas du tout la même chose. D'abord, c'est pas politique. C'est pas seulement après la guerre des six jours. J'ai été en Israël la première fois en 1924. J'ai été invité parce que... quoique assez jeune à l'époque, j'avais 25 ans, mais j'avais pour ami un juif russe émigré, un grand journaliste, qui s'appelait Polyakov Litovtsev et qui était un des sionistes de la première époque. Et il était l'ami de Chaim Weizmann, qui a été le premier président de l'État indépendant d'Israël, et qui, à l'époque, était le leader sioniste le plus écouté. Et il avait invité ce Polyakov Litovtsev, mon ami, là, à venir avec lui en Palestine, et Litovtsev lui avait conseillé de m'emmener. Alors, j'ai vu Weizmann, je l'ai remercié, mais je lui ai dit, mais écoutez, moi, sionisme, connais pas, ça me paraît une merveilleuse utopie, mais je vous dis franchement, je vais là, c'est l'occasion de faire un voyage et de voir des choses. Alors, il avait un sourire un peu mistophélique, c'est un homme d'une intelligence extraordinaire d'ailleurs. Et il m'a dit, oh, bien, on verra. Mais là, il s'est passé quelque chose que je... et je suis pas mystique du tout, vraiment. Mais quand c'est parfum de, c'était au mois d'avril, les orangers étaient en fleurs, on abordait alors en rade de Jaffa où des bateaux venaient vous chercher, des barques venaient vous chercher. Quand j'ai senti ce parfum d'oranger en fleurs qui arrivait comme une vague parfumée, j'ai eu l'impression que j'étais déjà venu dans ce pays que je connaissais. C'était vraiment une seconde, ça n'est plus jamais revenu. Mais ensuite, les premiers sionistes, enfin c'était déjà la deuxième vague, mais c'était le sel de la terre. Il n'y avait que des idéalistes qui étaient venus là pour récupérer un pays, pour le faire fleurir le désert, parce que c'est absolument vrai, pour instaurer en même temps, c'était tous des socialistes, auprès des socialistes utopistes, qu'ils allaient créer un État qui allait être le modèle du monde et que c'est l'exemple allait se répandre partout. Alors, quand on est de tempérament exalté, Lorsqu'on tombe sur des gens comme ça, on est conquis pour toujours. Et donc, mais je ne croyais pas au sionisme. Je me disais, bon, c'est quand on voyait une marmite sur un rocher, on vous disait, ça sera une usine, on voyait un marécage, ça sera une merveilleuse colonie, etc. Et puis, je ne suis pas retourné, mais la question m'intéressait, j'étais à fond pour le développement. Et puis, quand sont arrivées les persécutions hitlériennes et que c'est devenu le seul havre pour les... parce qu'aucun pays n'a voulu des juifs allemands, et encore moins après, pendant des juifs polonais ou des juifs hongrois. Alors, je pensais que c'était bon que les juifs aient un pays où ils puissent se sentir eux-mêmes. Et puis, comme nous le disons dans notre jargon journalistique, j'ai couvert la guerre d'indépendance. Et alors là, de nouveau, le courage, le dévouement, l'infériorité numérique, l'infériorité en armes, et ces gens qui ont vaincu contre toute espérance, et puis ce qu'ils ont fait d'Israël, et puis c'est fini maintenant. Israël existe et doit exister.
Oui, mais ça, c'est tellement beau que je crois que personne ne le conteste, ces débuts du sionisme et tout.
Alors
le reste,
là, il n'y a pas d'être
engagé.
C'est
pour ça que je voulais vous parler de la position actuellement contestée, même parmi de fervents philosémites, de la position actuelle d'Israël, seulement depuis la guerre des six jours.
Contestée en quoi?
Eh bien, contestée même par des amis. Bon, écoutez, sur le point de vue des Palestiniens, bien entendu.
Non, mais les Palestiniens, le problème existait avant la guerre des six jours.
Oui, mais enfin, pas aussi aigu, n'est-ce pas? Pas de cette façon.
Non, c'est les vrais réfugiés.
Oui.
Les vrais malheureux sont ceux qui sont partis en 48. Les Palestiniens de Cisjordanie, ils restent là où ils sont. Ils profitent même énormément de la présence israélienne. Il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'ouvriers qui sont payés au prix où sont payés les Israéliens, tandis que les prix de Jordanie, c'est 3 ou 4 fois moins. Il y a une... Je ne fais pas de propagande, je dis ce que j'ai vu, j'y étais encore il y a 3 mois. On laisse écrire les journaux arabes ce qu'ils veulent, on ouvre les frontières pour que les étudiants de Cisjordanie, de Gaza, aillent en Égypte, étudier comme ils veulent et reviennent. Je vous assure, sur mon honneur, vraiment, qu'il n'y a pas un occupant. Il y a des défauts, il y a des gens qui donnent des coups de pied au cul, il y a des brutes partout et même des sadiques partout. Mais leur nombre est tellement minime qu'il n'y a pas un occupant qui puisse se comparer à Israël en Cisjordanie.
Oui, mais vous avez prononcé le mot d'occupant.
Oui,
justement...
mais évidemment, ils ne disent, mais ils savent qu'ils sont occupants.
Alors,
mais ils gardent des gages. On peut, cela, on n'allons pas faire un débat là-dessus.
Non, parce que vraiment, ce serait trop long, mais enfin, votre point de vue m'intéresse.
Ils gardent des gages pour avoir une paix sûre. Voilà tout.
Et vous pensez qu'on ne peut en aucun cas les accuser d'expansionnisme?
Non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Il y a un parti comme ça. Il y a un parti, mais la majorité.
Bon. Alors, nous allons revenir à un sujet tout autre, mais l'écriture chez vous, après tout, est tout aussi intéressante et importante dans votre vie que l'aventure. Alors, je voudrais vous demander d'abord un peu comment vous écrivez en général, dans cette vie justement extrêmement mouvementée, presque chaotique, où vous êtes en voyage la bonne moitié du temps. Est-ce que vous écrivez en voyage? Est-ce que vous écrivez sur une banquette de chemin de fer ou éventuellement dans un taxi? Ou bien est-ce qu'il vous faut le calme de votre appartement parisien? Comment écrivez-vous? Très facilement, sûrement.
Ça dépend. Lorsqu'on est en reportage, que j'appelle militant, où il faut envoyer un article par jour, on écrit dans l'endroit où on est.
Ça, non, excusez-moi, je laissais le journaliste. Vous êtes un assez grand écrivain. Relativement négliger.
Non, mais ça, c'est le journaliste. Mais je ne trouve pas. Je trouve qu'on peut faire.
Quand vous écrivez vos livres.
Mes livres, il y a eu une époque où j'écrivais très facilement et où surtout j'avais une résistance très grande. Et j'écrivais comme je passais des nuits blanches, comme je voyageais. J'ai écrit des romans en 3 semaines, je travaillais 16-17 heures par jour pour l'un d'eux, Fortune Carrée, je me rappelle, pour la fin, où on n'est plus le maître, on est emporté par les personnages et par comme un cheval qui sent l'écurie, quoi. Et j'ai travaillé 50 ou 52 heures d'affilée. Alors voilà, j'ai travaillé comme ça. Maintenant, je dois dire que je travaille beaucoup plus difficilement. Suis-je plus exigeant ou bien...
Peut-être c'est simplement un souci de plus grande exigence.
Les ressources physiques tout de même ne sont plus les mêmes.
Oui.
Et alors les cavaliers, j'ai mis, pas uniquement les cavaliers, mais j'ai mis tout de même 7 ans à écrire ça.
Mais c'est un très gros livre et tellement chargé de faits et de
peut-être
psychologie.
Peut-être parce que je l'écris pendant 7 ans.
Et de psychologie aussi. C'est pas seulement un roman d'aventure, n'est-ce pas? Il y a une très profonde psychologie à certains moments dans la vie de ces gens qu'on jugerait faussement primitifs, qui ont en réalité des réactions extrêmement subtiles, souvent très passionnées.
C'était parti pour être un simple livre d'aventure, une espèce de longue nouvelle, et puis.
C'est beaucoup plus.
Alors peu à peu, ça m'a pris plus de temps parce que je sentais qu'il fallait dire plus de choses que ça.
Eh bien, je voudrais justement vous demander. C'est peut-être une question un peu bête à poser à un écrivain, je ne sais pas s'il peut y répondre, mais enfin, elle est classique. Quel est finalement celui de vos livres qui vous reste le plus cher? Est-ce que c'est, comme ils répondent très souvent les écrivains, le dernier? Ou bien, non, c'est tel livre, pour une raison que j'aimerais que vous élucidiez d'ailleurs.
Il y a deux livres. Il y a Les Cavaliers, parce que je crois que c'est le plus réussi. Équilibré, composé, et puis enfin il répond à un rêve que j'ai depuis l'enfance.
Ah, il est d'une richesse.
Mais
étonnante.
Le livre auquel je tiens le plus, il est moins réussi. Il est trop long, j'en couperai maintenant beaucoup. C'est Le Tour du Malheur j'y ai mis le plus
de vous-même,
de moi-même, intimité. De mon enfance, de mes parents. Enfin, ils sont transformés en français, mais ce sont mes parents. Enfin, et puis tout ce combat intérieur, ce manque d'unité, et naturellement, le drame est beaucoup plus fort dans le livre que dans la vie. Mais c'est un peu le drame de mon existence.
Je voudrais savoir quelles sont, en matière de littérature, vos admirations, et par conséquent, dans une large mesure, vos influences, celles que vous avez subies.
D'abord, Dumas.
Il n'y a pas de mal, Alexandre.
Alexandre Dumas, et que jusqu'à présent, si je commence une des 3 ou 4 grandes séries de Dumas, Dieu sait que je les ai lues et relues, je suis perdu, je ne peux plus m'arrêter. Mais j'aime aussi l'homme, c'est pour moi une espèce de merveilleux copain, j'aurais voulu être l'ami d'Alexandre Dumas, et puis de la façon dont il a vécu, dont il a brûlé sa vie, ceci dit, les 3 mousquetaires ont été pour moi un idéal, un exemple dans la vie. Et puis il y a eu Kipling, et puis c'est la banalité même, quoi. Les Tolstoï, Dostoïevski...
Oui. Les grands Russes, puisqu'après tout, vous êtes extrêmement sensible.
Mais aussi Dickens, mais aussi Balzac, jusqu'à présent. Oui. Je ne pars jamais en voyage sans emporter un volume de la Pléiade de Balzac avec moi. Enfin, ce sont... Et ils ont fait pour moi des gens plus vivants qui sont des compagnons plus réels que
mais
beaucoup de
Stendhal
gens qu'on connaît.
Mais Stendhal devrait vous plaire beaucoup aussi, un personnage Stendhal. Comme Julien Sorel.
Non, Stendhal, oui, mais c'est naturellement Balzac.
Stendhal, Fabrice doit vous être
comme,
cher.
C'est comme la dualité, Tolstoy-Dostoevsky,
oui,
Balzac.
Ça, oui.
Et vous savez, j'ai, à quel point ça m'a marqué, une seule fois dans ma vie, j'ai été en danger de mort et conscient. J'étais avec mon frère, nous avons eu un terrible accident d'auto, j'ai eu la nuque cassée, j'étais paralysé, j'ai dû porter une minerve pendant des mois, et nous avons dû attendre longtemps sur la route, il y a 40 ans de ça, qu'on nous ramasse. Et je croyais que j'avais comme le choc, on m'avait anesthésié, j'étais couché le long d'un talus, et je me voyais mort. Déjà, je survolais ma propre mort, et le ciel était beau, et je me rappelle, j'avais pitié de tous les gens qui allaient trop vite, parce qu'on allait trop vite, et je me dis, c'est le destin grec, tout ça. Et à ce moment-là, j'ai pensé au prince André, à Austerlitz, regardant le ciel, et c'est lui qui, si j'étais mort à ce moment-là, aurait été mon dernier compagnon.
C'était le quatrième des cinq entretiens avec Joseph Kessel, mené par Claudine Chonnaz. Première diffusion, le 22 mars 1973, sur France Culture. À suivre.